Nouvelle première partie de la suite dans les idées en forme de conférence de presse depuis Avignon, au jardin de Mons. On va parler de quelques spectacles qui commencent aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. On commence par un programme de spectacle, Danse entre chien et loup, un programme sous la responsabilité d'Amélie Grand. Amélie Grand, bonjour. Vous êtes directrice d'un autre festival ici à Avignon qui s'appelle Les Hivernales, qui est un festival de danse et qui se passe, comme son nom l'indique, l'hiver. C'est un peu le pendant en termes de saison du grand festival d'été. Ça existe depuis combien de temps, les Hivernales ?
23 ans.
Ah oui, quand même.
Oui.
Donc, ça fait,
on déjà... a commencé tout petit. Hein. C'est une petite semaine de danse et ça n'avait rien d'un festival au départ. On voulait faire une fête pour montrer que la danse bougeait, évoluait. C'était en 79. Donc. Et puis voilà, on a continué parce que la danse n'arrête pas de bouger.
Et l'idée, c'était aussi de dire qu'il peut se passer des choses l'hiver à Avignon, qu'il n'y a pas, évidemment, c'est sans commune mesure avec ce qui
bien
se passe
sûr,
l'été,
oui,
mais, oui. Mais c'est une ville où il existe des lieux, et autant les utiliser à d'autres moments.
Voilà, et quand je suis arrivée, Paul Puyot disait, oh, mais on s'embête l'hiver, il faut, fais-nous quelque chose. Et finalement, il m'a donné les lieux pour le faire, Benoît XII, les Pénitents Blancs, puis la Maison Jean Villard, et puis voilà, et puis on s'est installé l'hiver. C'est vrai qu'il n'y avait personne et que tout le monde était content. De s'associer. Alors tout le monde nous a aidés et on est parti comme ça.
Et du coup, il paraît aussi naturel que les Hivernales soient présents l'été sous forme estivale, sous forme d'une sorte d'incursion, de participation à la programmation du festival d'Avignon. Ça fait quelques années que ça se passe.
Ça fait depuis 4-5 ans que Bernard nous a demandé de faire des solos ou d'inviter des compagnies qui ne seraient pas les grandes compagnies internationales, qui ne seraient pas les centres chorégraphiques nationaux, mais qui seraient des compagnies moyennes, émergentes, et comme ça on aurait quelque chose de vivant qui arrive dans le festival.
Donc c'est plutôt une idée de défrichage et aussi de travail sur des formats, sur des formes plus courtes peut-être que celles des spectacles qu'on a l'habitude de voir à côté de ce programme Danse entre chien et loup dans le cadre du festival.
Oui, ce sont des pièces, on les appelait danse entre chien et loup parce que c'est toute une tendance maintenant de mixer les pratiques. Alors il y a aussi bien du cirque maintenant qui on ne sait plus d'ailleurs si la danse contemporaine elle englobe ou si c'est le hip-hop qui le fait ou si c'est le cirque qui arrive. En tout cas, c'est vrai que les choses ont changé et que cette année pour ces danses entre chien et loup, c'est un peu vers cette mouvance-là, vers le hip-hop, qu'on a essayé de déterminer une programmation.
Alors, on va tout de suite parler avec Franck Delouise, qui est notre invité aujourd'hui pour le premier des spectacles de danse entre chien et loup. Mais peut-être, Amélie Grand, quelques mots sur les deux autres dont on aura l'occasion de parler dans les jours qui viennent. Mais histoire d'annoncer, donc Kubilai Khan, c'est pas la première fois que vous les invitez.
Non, ils étaient là il y a 2 ans, mais il faut dire que c'est un collectif et que la pièce qui va être présentée ici n'est pas faite par Franck Micheletti, c'est-à-dire le premier qui l'a fait, qui avait fait Soy, donc il y a 2 ans, mais c'est Dimitri Jourde avec 2 circassiens, avec Cynthia aussi qui est danseuse, et c'est encore un autre spectacle qu'ils vont montrer, qui s'improvise sur scène avec DJ et tout ça, ça va être assez curieux. Puis le dernier, c'est un spectacle qui vient de Belgique. Fatou Traoré est française, mais installée en Belgique. Et elle avait fait, il y a 2 ans, un spectacle avec 11 musiciens, les 11 musiciens de Chris de Forte, un ensemble de jazz très, très intéressant. Et dedans, il y a des danseurs et des chorégraphes belges. Et c'est un très beau moment, ça s'appelle Passage. Ils jouent ensemble entre la danse et la musique. Et il y a aussi, bien sûr, des passages hip-hop.
Alors, le premier des spectacles, comme je disais, c'est Franck Delouise qui l'a conçu. Peut-être, Amélie Grand, vous pourriez nous dire 2 mots. Franck Delouise, c'est une figure du hip-hop en France, c'est un des pionniers
On peut le dire, il a l'air, c'est pour ça qu'il a l'air tout jeune, mais ça fait 20 ans qu'il traverse tout, de la musique à la chorégraphie. Il ne travaille pas que pour lui, il écrit des musiques pour la danse contemporaine aussi. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui est vivant, quoi, qui bouge et qui est vivant. Bon, vous savez que la jeune danse, en ce moment, on dit qu'il y a 4 courants. Il y a les conceptualistes, il y a les mouvementistes, il y a les abstraitistes, et puis il y a les trivialistes. Alors, les trivialistes, c'est pour qui les danseurs ne sont pas des héros. Dans le spectacle de Franck, ils sont des héros, moi, je trouve. Et donc, on pourrait dire qu'il est conceptualiste mouvementiste.
Ça vous va, avec. Franck Delouise,
ça me dépasse.
Disons que je sais pas s'il faut avoir le défendre quelque chose, enfin défendre sous une étiquette quelque chose, mais enfin de toute façon je suis très content d'être ici parce que pour moi c'est quand même un long parcours depuis ce passage de la rue à la scène. Ça a demandé beaucoup d'années. On s'est un peu perdu au début. On savait pas trop comment utiliser justement des plateaux. Et je pense qu'aujourd'hui on a réussi à faire à présenter quelque chose qui a une valeur sur un plateau, quoi.
Alors là, ce spectacle, c'est un drop it. J'ai lu dans votre texte d'intention sur ce spectacle, c'était un travail sur la libération, en quelque sorte, des danseurs qui sont des parents enserrés, enfermés dans des costumes et qui s'en échappent.
Ouais.
Ça, c'était un point de départ. Il est oublié.
Non, disons qu'on a, enfin moi, souvent on a du mal à exprimer ce qu'on a voulu dire par la danse. Si j'étais capable de dire aussi clairement ce que je dis par la danse, par les mots, je ne ferais pas de la danse. Donc, ouais, au début les corps sont enfermés, donc ils sont emprisonnés et ça parle de la difficulté peut-être qu'on a des fois à lâcher son corps. Au sens, enfin ce qu'on perçoit de l'extérieur et comment on le traduit dans le corps. On a souvent du mal, je crois qu'en Occident, on a du mal à faire ce genre de choses naturellement.
Alors, la chose la plus intéressante, peut-être, avant d'avoir vu le spectacle sur ce que vous proposez, parce que c'est rare, c'est de noter que c'est vous qui avez à la fois fait la musique et la chorégraphie. Alors ça, c'est quelque chose qui est propre à la tradition hip-hop, qui est une sorte d'art total, d'une certaine manière. C'est rare, d'ailleurs, enfin, je me faisais la réflexion. Très peu de chorégraphes, à ma connaissance, écrivent leur musique. Alors, ils l'écrivent d'une certaine manière en faisant des collages, en prenant à droite, à gauche, etc. Mais vous allez plus loin, puisque d'abord, souvent, vous travaillez uniquement sur la musique, pour des spectacles d'autres. Mais là, non seulement vous avez élaboré cette musique, mais vous avez élaboré la chorégraphie. Comment se passe ce travail? Est-ce que vous commencez par l'un ou par l'autre, ou est-ce que c'est des allers-retours permanents?
Pour moi, c'est la même chose. Quand j'étais danseur, j'étais DJ aussi. Donc forcément, il y a un lien direct, surtout en danse hip-hop, il y a vraiment un lien direct avec la musique. Et pour moi, la danse, c'est effectivement la musique du corps et que c'est un va-et-vient constant entre les notes que je choisis, les rythmes que je choisis et l'énergie le besoin en énergie du corps, le mouvement. Donc c'est étroitement lié et pour moi, c'est une même chose. Donc naturellement, j'en suis venu à faire ces deux choses en même temps, quoi.
Et je disais, le hip-hop, souvent un art total, il y a une troisième dimension en général, je ne sais pas si vous l'assumez vous, le graphe, l'aspect graphique du hip-hop, est-ce qu'il est présent aussi, ou c'est une dimension que vous avez peu à peu laissée derrière?
Bah, disons que ce que je disais, c'est que le trajet est long et le fait de faire ce passage de la rue à la scène, ça demande beaucoup d'adaptation et de comprendre ce que c'est qu'un plateau, ça demande du temps. Parce que pour comprendre qu'au départ, c'est une danse de rue, c'est que ça se passe autour d'un cercle que forment les gens, les passants, et on n'est pas du tout dans le même rapport, dans le même échange avec le spectateur et l'acteur. Et aujourd'hui, on a fait un travail sur les costumes, on a fait un travail sur les lumières. C'est déjà beaucoup à gérer. Et petit à petit, s'esquisse quand même un dessin. Enfin, les choses s'affirment de plus en plus. Et je pense que le graphe arrivera en temps voulu. Mais il ne faut pas trop
Ah, donc
précipiter.
il est pas totalement
Ah
oublié.
non, non, du tout. Non, pour moi, c'est lorsque j'ai découvert le mouvement hip-hop, c'était un renouveau. C'est-à-dire qu'on a reconsidéré tous les codes existants. Aussi bien le vocabulaire de la danse que celui de la peinture, que celui de. C'était une autre façon de peindre avec des outils différents, puisqu'on utilise des bombes à aérosol. La danse aussi, qui est une mixité de. On a été pioché à droite, à gauche. Et pour moi, on a réécrit un nouveau langage, un nouveau monde. Et pour moi, ça a été la terre promise. Donc le graphe en fait partie, ouais.
Alors, vous parlez beaucoup du plateau, de cette façon dont vous avez dû vous approprier l'espace de spectacle différent de la rue. Comment ça se passe dans ce lieu précis? Puisque là, à Avignon, je ne l'ai pas dit, je crois que vous êtes au cloître des Célestins. Comment vous avez conçu ce plateau
Bah, il faut. Là, voilà la question, c'est qu'on a formaté ce spectacle pour des plateaux. C'est-à-dire comprendre que on est dans une boîte noire, que il y a des distances, enfin que le terrain est délimité. Et justement, le fait de venir ici au cloître des Célestins, ça nous ramène aux origines, c'est-à-dire s'adapter à la rue, quoi, et à faire avec. Parce qu'avant, quand je dansais aussi avec le mobilier urbain. C'est-à-dire qu'on utilisait des bancs publics, on utilisait des cabines téléphoniques, on s'accaparait un peu la ville, quoi. Et puis là, ben, c'est un peu un retour aux sources, puisque tout à coup, on se retrouve face à des arcades avec des arbres. Deux arbres, cour et un jardin, et bon, ça c'est bien parce que ça remet en situation ce qu'est le spectacle vivant avant tout, quoi.
Franck Delouise, Drop It, c'est donc dans ce cloître des Célestins à 22 h et c'est jusqu'au 13 juillet. Francesca Latuada, on va parler de la tribu Iota. Il y aura quelques échos, quelques résonances à ce qui vient d'être dit, j'imagine. Je ne suis pas sûr d'avoir retenu toutes les catégories qui visent à définir la danse aujourd'hui. Il y a les abstraitistes, les mouvementistes, les trivialistes. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, qui, par votre travail, remettez un petit peu en cause justement des catégories. Et quand je parle de résonance, l'idée de la rue, l'idée du lien avec le hip-hop, du cirque, puisque le mot a été prononcé, ce sont des choses assez familières pour vous.
Oh, je crois que les catégories sont toujours un peu des facilités pour ranger les choses, hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire un peu d'ordre, mais on sait bien que les choses sont, quand elles sont artistiques, elles sont pas cataloguables.
Alors là, à Avignon, vous venez au clos de l'abbaye de Villeneuve-les-Avignon jusqu'au 26 juillet, sauf le samedi et le dimanche, présenter la tribu Iota. La tribu Iota, c'est un spectacle que vous avez imaginé et conçu avec une promotion des élèves du Centre national des arts du cirque à Châlons, en Champagne. On sait que depuis quelques années, cette école a pour tradition, on peut dire, de demander à un chorégraphe ou à un metteur en scène d'accompagner la promotion des élèves de dernière année dans le cadre d'un spectacle, d'imaginer un spectacle qui sera un vrai spectacle produit, monté et qui tourne. Et donc on a vu, par exemple, le travail avec les élèves de François Véret, de Joseph Nadj, de différents chorégraphes. Et c'est à vous qu'a incombé cette année cette responsabilité. Comment vous l'avez pris? Comment s'est passé nouer le contact entre l'école du cirque et vous?
Je crois que Bernard avait pressenti les affinités que j'ai depuis toujours avec le cirque. Et donc, ça a été un peu comme rencontrer un premier amour, hein. C'est quelque chose. J'ai déjà travaillé avec des circassiens. Denis Lavant, qui est un acteur avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé, pour moi, est un acteur circassien aussi. Et c'est vrai que c'est la première fois où, enfin, je travaillais avec une famille qui m'était proche. On s'est rencontrés en sachant que, dans le fond, on avait vraiment des affinités très profondes. Et puis, c'était la première fois où, enfin, j'avais l'espace idéal. C'est-à-dire que la frontalité, pour moi, ce n'est pas juste. La participation qu'on a dans un 360 degrés est absolument formidable pour un univers un peu rituel, où justement on revient aux origines, comme disait.
Franck Delouise.
Ouais. Et dans le spectacle, c'est toujours histoire de revenir aux origines.
Alors, il y a des époques où on sépare, où on met la danse, le théâtre, la musique, mais c'est un pléonasme. Un spectacle est forcément musical, est forcément dansé, est forcément chanté. C'est naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est de séparer les choses. Donc c'est vrai que les circassiens sont des artistes tout à fait boulimiques. Parce qu'ils savent que la vie est dangereuse, la vie artistique, quand ils tombent, c'est vraiment, c'est pas des petites blessures. Et donc, ils sont prêts à faire plein de choses. Ils chantent, ils jouent de la musique, ils sont acteurs. Donc, je ne l'ai pas pris comme un travail d'école. Pour moi, ce sont des gens. Et à la limite, c'est une bain de jouvence pour quelqu'un qui a le double de leur âge, comme moi. Parce qu'il faut rester comme ça, il faut résister dans le temps et pas se dire je sais faire, je connais et rester toujours comme un amateur.
C'est-à-dire que vous ne l'avez pas pris comme un travail d'enseignement ou un travail pédagogique ?
Ah, pas du tout, pas du tout. Je crois que c'est sûr que quand on aime les gens, peut-être les choses se passent mieux, mais la pédagogie, je ne sais pas, je ne connais pas. J'aime travailler avec les gens et j'ai beaucoup aimé travailler avec eux. Mais ce n'est pas de l'enseignement. C'est d'inventer un chemin pendant un certain temps dans lequel les gens vont pouvoir se retrouver avec nous chaque soir.
Alors là, vous avez imaginé une tribu. D'où sort cette tribu ? Vous parliez de rituels tout à l'heure. Vous êtes assez influencé par l'anthropologie. Donc, pourquoi cette idée de tribu ? Parce que l'un des problèmes du cirque, j'imagine, c'est de faire tenir ensemble des choses qui ont tendance, des éléments qui ont tendance à s'isoler, tout simplement parce qu'il y a un travail sur les numéros, enfin, je ne sais pas.
Oui.
Donc, il faut trouver un lien, il faut trouver une manière d'arranger.
Oui.
Et c'est pour ça que vous avez choisi quelque chose qui vous était par ailleurs familier, qui est cette notion de tribu.
Bah, d'une part, j'avais vraiment le désir de nommer eux en tant que groupe et pas de trouver un titre qui soit une situation abstraite, éloignée, indiquer une atmosphère ou une couleur que j'avais en tête moi. J'avais vraiment envie de nommer les 16 membres de cette tribu. Et puis c'est vrai que la dramaturgie dans le cirque, s'il y a quelque chose de nouveau, elle est là, dans le sens où, dans le temps, on engageait des artistes, des numéros, et puis ils étaient un à côté de l'autre. Il y avait une parade initiale, une parade finale, et puis c'était résolu comme ça. Donc la question est de comment les choses arrivent, comment elles s'en vont, et pourquoi ils sont ensemble. Parce que même si c'est un groupe, chaque individu de ces 16 jeunes artistes est unique et est très particulier. Donc il y a cette contradiction en tant que metteur en scène, de à la fois regarder chacun et à la fois dégager ce que cette tribu a.
Mais cette tension entre les individualités et puis ce que collectivement cette tribu peut produire du point de vue du spectacle, on la retrouve sous une autre forme, peut-être. Le cirque doit poser, de par sa tradition, pour vous, comme pour tous ceux qui essayent de travailler avec ce genre, avec cette forme, la question de la place de la virtuosité, parce que la virtuosité, c'est une valeur qui est quand même assez peu présente aujourd'hui dans les esthétiques contemporaines, pas seulement du spectacle vivant, mais en général, on pourrait le dire pour la musique, on pourrait le dire pour tout, même pourquoi pas pour la littérature. On se méfie un petit peu de la virtuosité, c'est pas quelque chose de très valorisé. Or, dans la tradition du cirque, évidemment, c'est l'un des piliers. Donc, comment vous avez pu gérer ça ?
C'est vrai que la virtuosité fait partie du cirque, elle n'est pas une fin en soi, mais je crois qu'elle y est, elle est présente. Moi, quand je vois des danseurs hip-hop, je trouve qu'ils font des choses extrêmement virtuoses, mais c'est un besoin humain très profond de dépasser les lois de la gravité, donc ce n'est pas une virtuosité gratuite, c'est de se dépasser, de faire quelque chose. Est-ce que c'est une virtuosité, une panthère qui fait un bond de 10 mètres ? Non, c'est un élan animal. Donc c'est retrouver tout ce qui est un dépassement d'une certaine humanité domptée, civilisée et rangée. Dans ce sens-là, le cirque est évidemment un exploit. Mais c'est le même exploit d'Icare qui essaie de voler. Donc elle est importante, cette virtuosité. Et le cirque est le lieu par excellence où on peut jouer de ces contrastes. C'est-à-dire, quand Damien fait sa maison en temps réel dans le spectacle, c'est un numéro aussi, poétique. C'est une forme de résistance à la vitesse, la consommation. Le numéro de trapèze aussi. Et il n'y a pas de hiérarchie dans le cirque, c'est ça qui est formidable. C'est pas la virtuosité contre la poésie.
Alors tout à l'heure, il y a une autre tension, parce que dont vous parliez tout à l'heure, l'existence du cirque en tant que cirque, qui est réaffirmée cette année, puisque vient d'être ouverte l'année du cirque. Donc institutionnellement, le cirque existe peut-être plus que jamais, pris en charge par la politique culturelle, etc. Et puis en même temps, ce que vous disiez tout à l'heure, qui va contre ça, l'idée que les frontières entre le cirque, la danse, le théâtre, ça n'a pas de sens. Vous parliez de Denis Lavant. Denis Lavant, il travaille avec Bernard Sobel ici. On le voit au cinéma. Finalement, vous qualifiez d'artiste circassien, mais bon, peu importe. Enfin, je veux dire qu'il peut travailler dans tous les domaines. Donc, comment là aussi continuer à réaffirmer une identité qui est celle du cirque? Par exemple, votre spectacle, là, vous le signez mise en piste, ce que vous ne feriez pas si c'était un spectacle de danse plus, enfin, comme les autres, comme ceux que vous avez fait avant. Donc il y a la reconnaissance d'un univers spécifique et en même temps l'idée qu'il n'y a pas véritablement de frontières. Comment vous vivez ça?
Ben, je fais. Et si je fais un spectacle avec le cirque, quand je dis mise en piste, c'est la réalité. Hein, c'est une piste, donc c'est une mise en piste. Je ne me pose pas cette question. Et j'ai toujours travaillé avec des gens qui avaient en eux-mêmes un mélange. Et je pense que le public, en plus, n'a pas du tout cette problématique. Il est prêt à accueillir, à percevoir. Et puis c'est vrai que tout le monde fait ça aujourd'hui. Et Yann Fabre, il est plasticien, il est écrivain, il est mystique, comme il dit lui, et c'est une fonction, hein, c'est un travail. Donc je crois que c'est impossible de ne pas être dans le mélange. La pureté n'existe pas. Quand on dit la danse pure, ça n'existe pas. C'est un leurre, hein, du moment, comme les races, on sait bien qu'on est tous des bâtards. Et le travail artistique est bâtard par excellence. Heureusement.
La tribu Iota, donc mise en piste par Francesca Latuada, avec les élèves du Centre National des Arts du Cirque, c'est jusqu'au 26 juillet à Avignon, au Clos de l'Abbaye à Villeneuve-les-Avignons, et c'est donc tous les jours sauf le samedi et le dimanche. On passe à un autre aspect du festival, je dirais presque polo opposé d'une certaine manière, avec des propositions de la SACD, texte nu d'abord, Jean-Michel Ribes, dont vous êtes responsable, dont vous avez eu l'idée, qui se tient jusqu'au 14 juillet dans la cour du musée Calvet, c'est à 19h. Ça fait 4 ans, je crois, Jean-Michel Ribes, que vous avez commencé cette manifestation, qui consiste à mettre en valeur des textes d'auteurs vivants par des lectures de ces textes. Et je crois que le point de départ de cette initiative, pour vous, c'était le constat d'une crise, une crise relative au moins, du statut de ces auteurs vivants, qui n'avaient pas la part belle dans le monde des arts vivants. La première question que je voulais vous poser, c'était peut-être de revenir sur ce point de départ et de vous demander pourquoi, quelle analyse vous faites de cette situation-là.
Elle est très simple, l'analyse. C'est que il y a des guetteurs officiels. Les guetteurs officiels sont les gens qui dirigent les instances, les institutions, les grands théâtres, qui sont des metteurs en scène célèbres, qui ont beaucoup fait pour que le théâtre soit réinventé nouveau. Mais le problème, c'est que ils ont les yeux fixés sur l'horizon classique. ils ont plutôt le syndrome du Bernard l'ermite, c'est-à-dire plutôt de se mettre dans une coquille d'un animal mort ou d'un auteur mort pour en être après le compagnon, le créateur, l'œuvre, et que justement c'est Guetteur qui informe la ministre, qui informe les gens qui décident au plan de l'institution, disent, mais on l'a vu encore dans la presse récemment, il n'y a pas d'auteur. Je trouve que c'est tout simplement un peu se foutre du monde, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, mais qu'est-ce qu'un auteur, comme le disait Coltès, qu'est-ce qu'un auteur qui n'est pas monté, ce n'est plus un auteur, et qui doit monter les auteurs dans l'institution, des gens qui justement ne les montent pas. Donc c'est un cercle vicieux qu'il va bien falloir un jour interrompre, si on veut un tout petit peu écouter l'écriture, la peau du temps, de remettre un petit peu quand même les gens qui racontent avec des mots ce qui se passe aujourd'hui. Molière ne parle pas comme on parle aujourd'hui, ne raconte pas ce qui se passe aujourd'hui. L'homme éternel, c'est bien gentil, mais il évolue aussi. Et je crois aussi que c'est un leurre de dire que la forme, comme le disait Francesca Latuada, bien sûr qu'il y a la musique, bien sûr qu'il y a la danse, bien sûr que tous ces arts sont naturellement faits pour faire du spectacle, mais je ne pense pas que l'écriture vienne perturber ce plaisir-là. Je crois qu'il peut rentrer dedans. D'ailleurs, beaucoup de chorégraphes mettent des textes. Bon. Donc je crois que ce n'est pas du tout une attitude corporatiste, hein, ce n'est pas du tout une attitude... c'est simplement de dire que je trouve qu'on prive le public d'un plaisir qui est celui du texte, qui est celui des auteurs qui existent. Parce qu'ils existent, il y en a, je ne vais pas vous faire l'injure de les citer, il y en a des célèbres, il y en a beaucoup. Il faudrait qu'on s'aperçoive sans patriotisme ou sans je ne sais pas quoi, qu'il n'y a pas que les auteurs allemands, qu'il n'y a pas que les auteurs anglais, il y a aussi des gens en France qui sont des vrais poètes et qui sont aujourd'hui, qui racontent le temps d'aujourd'hui.
Ah justement, vous parlez d'auteurs allemands, d'auteurs anglais. Est-ce que une des hypothèses pour expliquer cette crise n'est pas dans le fait que on est dans une tradition en France qui valorise beaucoup le metteur en scène? Cette tradition qui est aujourd'hui celle des arts vivants nous vient aussi peut-être en partie du cinéma. Où là aussi on a une valorisation du réalisateur, en tous les cas beaucoup plus que dans la culture anglo-saxonne où celui qui écrit, il suffit de regarder la façon dont les films tout simplement sont considérés quand ils sortent, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Celui qui écrit a encore une place centrale. En France, c'est beaucoup moins le cas. Oui. C'est-à-dire qu'on découvre presque par hasard qu'un film est adapté d'un roman, enfin, on ne fait pas trop attention, les critiques du cinéma ne le remarquent pas trop.
Oui, enfin, je vous signale quand même, si vous parlez du cinéma, qu'il y a un rapport qui vient de sortir, qui s'appelle le rapport Gassot, qui signale qu'une des plaies du cinéma français, c'est le peu d'argent, puisque c'est 2% sur le budget d'un film, qui est consacré aux écrivains et à l'écriture. Donc c'est
oui,
vrai
ça souligne ce que je vous dis.
Oui, c'est ça. Donc il y a une remise en perspective du scénario comme un élément fondamental si on veut faire des choses qui sont le spectacle même visuel, c'est-à-dire que l'écrit est très important. Quant à la France, la tradition, vous savez, elle est récente, elle a 50 ans. Hein. Je veux dire que la Comédie française, au siècle dernier, ne commandait ses spectacles qu'à des auteurs vivants. Je peux vous raconter qu'il y a plein de... je veux dire, ça a commencé, si vous voulez, avec une espèce de prise de pouvoir, d'abord de prise de pouvoir d'un certain nombre de metteurs en scène qui se sont retournés vers le passé, qui sont devenus des gens qui ont mis en musée une culture qui était, c'est vrai, séparée du public. Villard a fait une œuvre formidable, mais seulement à un moment, et il le dit lui-même, d'ailleurs il dit « monter Shakespeare, c'est bien, mais c'est que monter Shakespeare ». Il faut aujourd'hui retrouver les Shakespeare d'aujourd'hui, et il y en a. Et je trouve qu'il faut arrêter aussi cette position insensée de l'auteur qui n'est que le fantasme ou le désir d'un metteur en scène. C'est-à-dire qu'il y a 40 metteurs en scène qui dirigent des institutions avec une puissance, un talent certes, et beaucoup d'argent, et si on ne plaît pas à ces gens-là, il n'y a pas d'auteur. Je crois que là, il y a une disproportion des pouvoirs étonnants, et malheureusement, un auteur pas joué, c'est rien. C'est-à-dire, le théâtre, c'est fait pour être joué, et pas uniquement pour être lu. Donc, je crois, et on l'a dit souvent et récemment encore à Catherine Tasca, je crois que l'idée serait de couper ce cercle vicieux et de prendre le risque des mots, c'est-à-dire de donner peut-être un ou deux théâtres à des auteurs qui ne sont pas, comme on le croit trop souvent, des gens perdus dans une tour d'ivoire ou de doux rêveurs. Ce sont des gens qui souvent ont des compagnies, qui souvent se battent pour faire des choses. Et on s'apercevrait là qu'il y a un foisonnement étonnant d'écriture et d'auteurs en France qui passerait par un petit goulet d'étranglement qui serait un ou deux théâtres où ils pourraient être joués et choisis par leur père.
Avant de revenir précisément à la programmation de textes nus de cette année, encore une question pour approfondir un petit peu ce point, Jean-Michel Ribes. Est-ce que l'autre raison de cette crise n'est pas dans le déplacement du rapport au texte d'un certain nombre de gens qui font du spectacle vivant, c'est-à-dire non seulement du théâtre, mais aussi de la danse, déplacement vers justement cette zone entre le théâtre et la danse où le texte ne remplit pas du tout la même fonction, où souvent du coup le texte existe, mais il est écrit par les gens qui signent les spectacles. Je pense que c'est dans cet espace-là que se font les choses peut-être les plus passionnantes aujourd'hui. On va en avoir un exemple avec Yann Fabre dont parlait Francesca Lattiola tout à l'heure, mais on pourrait aussi citer le travail d'Alain Platel et d'Arne Sirens. On pourrait parler de d'Arbelay et Jacquelin qui était ici hier. On pourrait parler de ce que fait Grand Magasin. On pourrait parler de tous ces spectacles pour qui finalement la notion même de texte a radicalement changé dans cette année. Non pas qu'il n'existe pas, ce texte existe, mais il est assumé, souvent signé par les gens qui font l'ensemble du spectacle.
Oui, enfin, moi je suis, j'adore Platel, je trouve ses spectacles formidables. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire que l'auteur doit écrire comme au 19e siècle. Je ne suis pas en train de vous dire que les auteurs sont des gens qui font un acte, deux actes, trois actes. Je suis simplement en train de vous dire que, et ces gens-là d'ailleurs le font, que l'auteur doit être réinséré dans le dispositif théâtral. C'est-à-dire que le texte ne doit pas être vécu comme un ennemi un peu, sans dire de bêtises, ne doit pas être vécu comme quelque chose d'ennuyeux ou quelque chose qui vient simplement dire des choses blablabla. Bla bla. Ça doit être simplement remis dans une modernité. Moi, je trouve que l'interdiscipline de tous ces arts est très bien, seulement il faut y mettre aussi l'auteur. Je veux dire que le texte dramatique aujourd'hui a évolué, c'est justement pour ça qu'il doit être là, il parle plus comme Molière, et c'est surtout quelque chose qui doit ne pas être exclu des expériences les plus avant-gardes et les plus modernes d'aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous me citez ces gens-là, je pourrais vous citer de Durif à Vinaver ou de je ne sais pas, de Grimbert à Duringer, etc., des tas d'auteurs aujourd'hui qui participent aussi quand même à cette modernité et qui ne demandent, à mon avis, qu'à être mélangés justement à ces créateurs, à faire des expériences avec d'autres écritures scéniques.
Alors, texte nu cette année, ça commence... Ça commence aujourd'hui à 19h et c'est jusqu'au 14 juillet. Comment s'opère le choix? Là, on va avoir cette année des textes de Yves Charnay dans l'ordre, José Plia, Félag, Martine Drey et Laurent Godet. Le principe, c'est qu'en général, ce sont des comédiens qui lisent. Sont donc des lectures, sauf pour Félag, où Félag lit lui-même son texte.
Je dirais que c'est un petit peu plus, sinon plus compliqué, un petit peu différent. C'est-à-dire que moi j'ai souhaité que d'abord ce soit des comédiens prestigieux qui justement éclairent de leur célébrité souvent des auteurs qui ne sont pas encore. Ça c'est le premier principe. La deuxième
Alors,
chose...
Denis Podalydès, Catherine Yégel, Sylvie Testu, Félag, Ludmila Michael et Jean-François Balmain.
Voilà. Le deuxième point, c'est que j'ai souhaité qu'à la différence de certaines autres lectures, ce ne soit pas une pièce à vendre, mais un auteur à découvrir. Et c'est pour ça qu'on a institué une règle du jeu qui est qu'il y aura, il y a simplement des textes, d'abord, qui ne durent pas des heures, qui durent une heure au plus, qui ne comportent qu'une ou deux voix, pour que l'auteur puisse être totalement perçu et que l'acteur ne se perde pas dans des vies d'escalier et que, etc., que ça devienne incompréhensible. Et enfin, je ne pense pas que ce soit exactement des lectures, parce qu'il y a un rapport juste entre l'auteur et l'acteur, entre un texte et l'acteur, sans autre passeur de sens, qui fait que de toute façon, et par le fait même qu'il n'y a qu'un ou deux acteurs à lire, ça devient une sorte d'interprétation. C'est-à-dire que c'est presque un spectacle, et d'ailleurs, quand on voit l'état de panique dans lequel sont les acteurs avant de faire ça, on voit bien que ce n'est pas simplement une lecture. Et le troisième deuxième point enfin que je dirais, c'est que ce n'est pas non plus uniquement du jeunisme, ce n'est pas simplement des jeunes auteurs qui viennent apporter leur texte pour la première fois, même si ça a eu lieu et j'en suis ravi, il y a eu des inédits pour textes nus qui aujourd'hui sont joués, c'est aussi un regard sur aussi des acteurs, des auteurs connus qui sont un peu plus avancés dans leur œuvre et dont on rappelle qu'ils existent aussi, qu'ils sont aussi vivants et dont on peut lire aussi des textes qui sont aussi excitants que des premiers jets.
Alors, mais ces auteurs sont variés. Il y a Laurent Godet qui a écrit pour le théâtre, mais qui vient de publier un premier roman ces derniers mois chez Actes Sud. Il y a aussi Félag dont je parlais.
Alors je dois dire que je suis pour une diversité. C'est-à-dire que je pense aussi que parmi les problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est que je ne suis pas tout à fait sûr que si Alfred Jarry écrivait Uburoi aujourd'hui, même s'il est joué ici avec les honneurs de ce festival, s'il arrivait et débarquait aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il serait joué dans l'institution. C'est d'ailleurs qu'il y a une dimension de fantaisie qui est un petit peu refusée. C'est pour ça que je suis très content que quelqu'un comme Félag, dont je trouve que c'est un écrivain absolument faramineux, soit là, parce que c'est une sorte d'Alphonse Daudet, je trouve, d'aujourd'hui. Et puis, je suis content aussi qu'aujourd'hui, il y a une petite ouverture sur la francophonie, c'est-à-dire que quelqu'un comme José Plia, qui est un auteur antillais, vienne montrer sa pièce, lue par Sylvie Testu et par Catherine Yégel, pour s'apercevoir qu'il y a aussi des auteurs hors français, hors de l'Hexagone, même si dans l'Hexagone on dit qu'il n'y en a pas, il y en a aussi quand même ailleurs. Enfin voilà, quoi, je crois que cette minuscule goutte dans la mer du combat qu'on mène pour que les auteurs existent, témoigne en tout cas d'une vigueur de l'écriture contemporaine et témoigne aussi de l'intérêt que portent certains grands acteurs à jouer des textes d'aujourd'hui.
Donc, texte nu, c'est proposé par la SACD dans le cadre du Festival d'Avignon jusqu'au 14 juillet dans la cour du Musée Calvet à 19h. Autre opération proposée par la SACD, au même endroit, cours du Musée Calvet, mais à 11h jusqu'au 14 juillet aussi. Mot d'auteur, Vera Feder, c'est vous qui êtes responsable de cette série. Là aussi de lecture, mais la différence avec texte nu, c'est que ce sont les auteurs eux-mêmes qui viennent là lire leur texte.
Alors si vous voulez, ça aurait pu s'appeler l'auteur nu, sauf que naturellement on aurait eu quelques problèmes et puis on aurait fait concurrence à texte nu parce que c'est quand même un petit peu l'auteur mis à nu devant son propre texte, l'auteur mis à nu devant les auditeurs et se retrouvant pratiquement dans la position fétale, si on veut, de la création, c'est-à-dire qu'il va être assis à une table, il va être seul avec son texte, il va être assis comme il est assis dans la position physique quand il écrit, c'est-à-dire que pour lui, il y a une démarche totalement récurrente qui le remet face à ses propres mots. Et je crois, si vous voulez, que on ne parle pas beaucoup de l'auteur. Moi, j'abonderais assez dans votre sens quand vous disiez tout à l'heure à Jean-Michel que moi je crois qu'en France, il y a une trentaine d'années, l'Angleterre, un pays comme l'Angleterre qui a toujours aimé le théâtre, qui a toujours aimé ses auteurs, a valorisé ces jeunes auteurs. Et en France, on a valorisé le spectaculaire, c'est-à-dire le metteur en scène, celui qui prend l'auteur, qui le joue dans les deux sens du mot, donc de temps en temps qui le joue bien, ou de temps en temps où l'auteur est joué, c'est-à-dire trompé. Et je pense qu'il y a eu un grand dommage pour les auteurs. L'auteur est celui qu'on oublie presque toujours. Si on prend par exemple le public il va voir une pièce qui marche, dit voilà, j'étais voir une très très belle pièce où il y avait Alain Delon et Francis Huster. On dit et l'auteur. Alors, peut-être que s'ils ont bien lu l'affiche, s'ils ont bien lu le journal, ils sauront que c'est Eric Emmanuel Schmitt, mais généralement, ils viennent voir un acteur, un metteur en scène, ils viennent voir un spectacle. Alors que mot d'auteur propose exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de spectaculaire. Il y a un retour aux sources, et il y a l'idée aussi que l'auteur est quelqu'un d'extrêmement fragile, et qu'il accepte de mettre cette fragilité en jeu, aussi bien avec ses mots qu'avec sa propre personne. Et si vous voulez, l'exemple, il est à côté de moi, il vient d'arriver par un avion qui avait du retard. Donc l'exemple, c'est Eric Emmanuel Schmitt. Par exemple, quand je lui ai proposé de faire cette opération qui est extrêmement périlleuse, et je dirais qu'elle est périlleuse pour un auteur aussi connu que lui, comme elle l'est pour un très jeune auteur. Et ce péril, il a dit oui tout de suite, quoi. Il a tout de suite accepté. Je ne sais pas s'il a bien mesuré, je veux dire, le trac qu'il allait avoir, parce qu'on ne connaît pas le trac des auteurs. On connaît, si vous voulez, l'auteur quand il y a des intermédiaires, c'est-à-dire des acteurs, des metteurs en scène, un décor. On sait qu'il est comme un capitaine de vaisseau en coulisses et qu'il arpente la coulisse en ayant peur, mais il a peur, il se dit quelle chance, j'ai délégué hein, aux autres. Là, il n'y a pas de délégation, hein. Il va être tout seul et à lui de jouer et sans filet.
Eric Emmanuel, vous avez accepté parce que précisément il n'y a pas d'ambition de spectaculaire, parce que ce n'est pas un spectacle, parce que c'est une lecture.
Oui, c'est parce que moi j'aime entendre les auteurs lire. Je collectionne les enregistrements. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'entendre la voix d'un auteur, son souffle. Est-ce qu'il a le souffle court? Est-ce qu'il a le souffle long? Parfois, on découvre que la mesure d'une phrase d'un auteur, elle est due à son asthme ou à ses grandes capacités respiratoires. Donc, j'ai toujours été très intéressé par le corps dont ça sort, une parole. Par ailleurs, le faire moi, j'ai pas réalisé ce que j'allais faire. C'est cette cuillère que je commence à réaliser et à trembler. Parce qu'effectivement, c'est très impudique. Je crois que quand on est auteur dramatique, on a choisi de pas avoir de corps. On a choisi que les autres aient un corps à votre place, les acteurs, les comédiens. Et si on a choisi de pas avoir de corps, c'est sans doute premièrement parce qu'on est peut-être mal à l'aise avec son propre corps, ou alors par ambition pour avoir tous les corps du monde, et pour être un homme, une femme, jeune, vieux, vraiment beau ou vraiment moche, mais différent en tout cas. Et c'est vrai que nous avons cette opportunité dans l'écriture de devenir des tas de corps et des tas de voix différentes. Alors là, pour moi, c'est faire quelque chose de très impudique, c'est-à-dire c'est accepter d'avoir mon corps à moi et d'avoir ma voix. Mais par contre, j'ai choisi un texte qui est un monologue. Ça s'appelle Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, parce que j'ai pensé que la seule chose que je pouvais faire, c'était effectivement un monologue, c'est-à-dire c'est la voix d'un enfant qui raconte, un enfant juif qui raconte son enfance dans la rue Bleue à Paris et ses rapports avec l'épicier arabe, dont on verra qu'il n'est pas arabe, de même que l'enfant n'est pas juif, de même que la rue Bleue n'est pas bleue.
Alors, vous voulez dire par là que, d'une certaine manière, ça aurait été plus facile pour vous de lire un de vos romans plutôt qu'un texte destiné au théâtre?
Oui, parce que le texte de théâtre, c'est un texte qu'on a entendu d'abord, mais qu'on n'a pas entendu avec notre voix. On l'a entendu déjà avec la voix des personnages. Alors que je pense que le roman, on l'entend beaucoup plus avec notre voix, déjà. Donc, le texte de théâtre, c'est un texte qui est offert, qui est un texte qui est donné. Je me souviens, j'avais eu un échange avec Le Clésio. Il me disait, moi, je n'écrirai jamais de théâtre parce que je ne voudrais pas être dépossédé de mes textes. Je lui dis, mais c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Donc, par contre, je trouve que c'est quand même intéressant, même si c'est un texte qui est fait pour être dit par d'autres, qui sera toujours mieux dit par d'autres, définitivement, de voir quel est le rythme qu'imprime un auteur à sa pensée et quelle est la façon dont il colore les choses. Enfin, moi, en tant qu'auditeur, ça m'intéresse toujours.
Ah mais moi, comme lecteur, je partage tout à fait votre avis. Je regrette qu'en France, parce qu'on va revenir à cette comparaison internationale, on parlait tout à l'heure de l'Angleterre, mais on pourrait aussi prendre l'exemple allemand. En Allemagne, par exemple, les romanciers lisent beaucoup leur texte et les lecteurs payent parfois une somme assez importante pour aller écouter les romanciers. C'est une chose totalement imaginable en France. Alors, on voit peut-être les choses se mettre un peu en place. De plus en plus de lectures ont lieu, mais ça reste balbutiant si on compare à ce qui se fait.
C'est dommage parce que c'est une tradition. Je veux dire, Dickens faisait des grandes tournées aux États-Unis, en Angleterre et en Irlande pour lire ses textes. C'était un grand lecteur et une grande partie du succès de Dickens, c'est le succès du comédien qu'il était aussi. Je crois que ça revient.
Et dernière question, peut-être, je vais vous demander quel était le rapport que vous aviez, vous, plus personnel à la lecture, c'est-à-dire au moment du processus d'écriture. Est-ce que la lecture à haute voix, puisque c'est ça dont il s'agit, vous y avez recours avant
Moi, je dois dire que j'entends à l'intérieur de ma tête, donc je n'ai pas besoin de prononcer. Je n'écris la phrase qu'une fois que je l'ai entendue, et qu'avec bien pesé, avec sa densité, avec son début et sa fin, son équilibre, et qu'elle fait l'arc. Tant qu'elle n'est pas comme ça, tant qu'elle sent l'effort, tant qu'elle sent ma sueur, je ne m'en débarrasse pas. Je ne l'écris qu'une fois que je l'ai bien entendue. Donc je ne fais pas le gueuloir. En plus, je me méfie du gueuloir parce que ça a tendance à donner un aspect oratoire à ce qu'on écrit. Donc ça peut académiser, si on a déjà tendance, mais en plus, ça peut vous académiser encore plus.
Alors après Éric-Emmanuel Schmitt, on pourra donc entendre Denis Chalem, Victor Haïm, Olivier Tchatchiari, Véronique Olmy. Ça c'est donc dans le cadre de mots d'auteur proposés par la SACD. Jean-Michel Ribes, vous vouliez apporter une précision bibliographique.
Je voulais juste dire que d'ailleurs Éric-Emmanuel Schmitt et Affeder font partie des écrivains associé du théâtre, et qu'un livre vient de sortir chez Actes Sud qui s'appelle « Quoi de neuf, l'auteur vivant, état des lieux et propositions », qui est à la fois un constat avec des chiffres, mais c'est très amusant parce qu'il y a 65 billets d'humeur d'auteurs qui racontent de manière très drôle l'état dans lequel ils sont et ce qu'ils vivent par rapport à l'institution. Donc voilà, ça s'appelle « Quoi de neuf, l'auteur vivant » et c'est un an de travail des écrivains associés. Je crois que c'est un petit témoignage piquant.
Merci à tous. On se retrouve demain pour une autre suite dans les idées en forme de conférence de presse. Mais avant de se quitter, on va écouter de la musique hongroise du groupe Bechodrome, qui fait partie de cette saison magyar, qui est présent à Avignon, à l'espace Jeanne Laurent, jusqu'au 13 juillet à 21h. Bechodrome, c'est une sorte de synthèse de beaucoup de traditions musicales différentes, mais une synthèse, mais pas de la fusion, c'est-à-dire plutôt à l'image de la world music dans ce qu'elle peut aujourd'hui avoir de plus intéressant.